Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Histoire d'en savoir plus. Alors, si vous vous intéressez à l'histoire du département d'Eure-et-Loir, vous ne pouvez pas ignorer le nom d'Alain Loison, si je reprends, en espérant ne pas en oublier, ses derniers ouvrages, Les mystères d'Eure-et-Loir, Les nouveaux mystères d'Eure-et-Loir, Les grands événements d'Eure-et-Loir de 1900 à nos jours, et le dernier en date, Étonnant lieu d'histoire d'Eure-et-Loir. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alain Loison pour qu'il nous parle de son tout dernier ouvrage qui se rapporte à l'invasion prussienne de 1870 en Eure-et-Loir. Rappelons pour mémoire que 2020 marque le 150e anniversaire de la, ce qu'on appelait la guerre de 70, qui a démarré en juillet 70 et terminé en janvier 71, c'est-à-dire en gros 6 mois. Alors, tout d'abord, Alain, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir. Alors, première chose, dans le livre qui vient de paraître, j'ai fait comme tout le monde. J'ai commencé par le feuilleter. Et je trouve que il y a des photographies qui sont d'une qualité remarquable. Alors, certaines sont quand même très rares. Alors, où les avez-vous trouvées ?
Partout. Partout. D'abord, dans mes collections personnelles. Et puis, sur Internet.
Oui.
Et je suis un fanat des recherches sur Internet. J'y passe des heures et des heures. Non pas pour aller de page en page, mais pour aller de site en site et des sites tout à fait spécialisés. Et en passant des heures sur un seul site, je vais au plus profond du site et là, je découvre des pépites.
Oui.
L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui du site qui a mis en ligne des milliers de photos des zouaves pontificaux. Hein? Zouaves pontificaux qui se sont beaucoup battus en Eure-et-Loir. Mais il en existe d'autres, et des sites en Espagne sur les généraux du Second Empire. Et ces généraux, on les a retrouvés, bien entendu, au moment de la guerre avec la Prusse. Alors pourquoi les Espagnols ? Je n'en sais strictement rien du tout. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé, et puis lorsque je n'avais pas de photos, j'ai fait des recherches à l'extérieur avec des indices, par exemple, sur les lieux où habitaient ces personnes, les lieux où ils ont combattu. Et de cette façon-là, j'ai trouvé dans le Calvados, au fin fond des archives départementales du Calvados, la photo d'un magnifique lieutenant-colonel, Charles, qui figure d'ailleurs dans le livre pour tenir une grande page. Je ne sais pas comment est-ce qu'il est arrivé, sa photo est arrivée dans les archives du Calvados. Ou un autre, un capitaine qui figure également donc en pleine page, dont la photo se retrouvait dans un album au musée d'Orsay. Alors, bien entendu, quand on tape Yves Bastide sur sa page de son écran, on va avoir des milliers d'Yves Bastide. Et après, il faut chercher celui qui doit correspondre.
En clair, il y a dans le travail préalable que vous avez accompli quelque chose de la fourmi.
Absolument, absolument.
Mais vous êtes tout seul, vous n'êtes pas au sein de la fourmilière.
Ah, je suis absolument tout seul et il faut partir dans toutes les directions, il ne faut rien oublier. Et quelquefois, avec beaucoup de déception, j'ai quelques personnages qui ont eu des ascendants illustres, portant le même nom, même prénom, et bien entendu, on se souvient dans ces sites des ascendants, et non pas de celui qui s'est battu dans la campagne d'Eure-et-Loir.
Oui, parce que, en plus, vous précisez bien que vous parlez des faits d'armes, mais à partir de témoignages, parce que quand même, 150 ans... Alors, rappelons quand même que le conflit avec l'Allemagne a été le prélude à beaucoup de bouleversements, et peut-être le prélude, qui sait, à la guerre de 14-18, mais ça a été le prélude aussi à la naissance de la Troisième République.
Absolument.
Donc, puisque lorsque Napoléon II s'est enfui, c'est la Troisième République qui s'est installée.
Voilà, Napoléon III. Hein, Napoléon III qui s'est
enfui. Napoléon III, oui, pardon. Alors,
il s'est enfui bien piteusement, mais il était, s'il a bien été conseillé dans le domaine économique, dans le domaine militaire, il était le chef des armées et il n'avait pas forcément de bons conseils. Par exemple, celui du maréchal Lebeuf, c'est à qui on doit la fameuse formule, il ne nous manque pas un bouton de guêtre. Mais il avait certainement, ce brave maréchal, jamais vu un soldat de sa vie, hein, tout du moins...
Si, dans les bureaux.
Dans les bureaux et pas sur les champs de manœuvre, parce que ces malheureux garçons étaient dans des uniformes qui n'en étaient pas, et ils étaient chaussés de chaussures en carton.
Alors, autre chose qui m'a surpris en pénétrant dans votre livre, c'est le nombre... incroyable de lieux, d'heures et lois qui ont vu se dérouler des combats au cours de cette guerre qui a duré 6 mois. Finalement, 6 mois, c'est peu de choses, mais il y a eu énormément de combats. Alors évidemment, vous allez me dire, ou peut-être ne pas me dire, je ne sais pas, vous allez me dire qu'il y a Loigny-la-Bataille, dont on parle encore, mais il n'y a pas que ça, et énormément de sites, de lieux en Eure-et-Loire sont concernés.
Absolument. C'est le regret que j'ai eu lorsque je suis parti à la recherche de ces faits d'armes, de constater qu'on ne parle que de ce qui s'est passé dans le sud du département. C'est-à-dire oui. une ligne qui irait de la base Ojgoué jusqu'à Toury, oui. À peu près. Ce qui s'est passé au nord, rien. On parle un tout petit peu de Bonneval, mais au nord de Bonneval, plus rien. Chartres, inconnu, et sans parler de Dreux, bien entendu. Alors que les Prussiens n'ont pas fait que rester dans le sud du département. Ils ont attaqué le département par le nord.
Et je voudrais justement que vous évoquiez une chose dont on ne parle jamais, et dont vous parlez, vous, dans votre livre... à savoir la reddition de Chartres.
Oui.
Alors, vous pouvez expliquer un peu de quoi il
s'agit. La reddition de Chartres est un moment... Ce n'est pas un fait d'armes, d'ailleurs.
Oui,
la reddition de Chartres est tout sauf un fait d'armes. Eh bien, c'est tout simple. J'essayais d'être très court. Les Prussiens avaient donc conquis Châteaudun le 18 octobre.
Oui. Hein.
Le lendemain, c'était jour de repos pour l'armée prussienne, parce que les armées prenaient des jours de repos. Hein. Et à partir du 20 au matin, l'armée prussienne est repartie en direction du nord. Le 20 au soir, l'armée prussienne a couché à Vitré-en-Beauce. Et le lendemain matin, les Prussiens développaient autour de Chartres. Le général von Wittich, qui commandait donc cette armée, s'est installé à Morancé. Alors, pour ceux qui connaissent Morancé, il faut traverser le bourg de Morancé, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à l'église. Et à cette époque, l'église était la dernière bâtisse avant la campagne. Mmh. Hein? Curieusement, l'église n'était pas au milieu du bourg, mais était sur les confins du bourg. Et le général prussien s'est installé derrière la petite colline qui aujourd'hui est le long de l'autoroute, donc on ne le voyait pas. Et pendant ce temps-là, il déployait ses troupes dans la direction de Tivard et de l'autre côté, sur Angerville et puis Coltainville et autres. Et à Morancé, il stationnait là avec son état-major et il a envoyé un colonel chercher le curé du village. Le curé du village, il a demandé au curé du village d'aller chercher le préfet de l'Orne, de Eure-et-Loire, et le maire de Chartres. Le préfet de Eure-et-Loire, qui était Émile Labiche, le frère de l'auteur, et le maire étant Delaunay. Et il leur a demandé de venir à Morancé. et les discussions se sont passées au presbytère.
Donc la reddition de Chartres n'a pas eu lieu à Chartres.
La reddition de Chartres n'a pas eu lieu à Chartres. Le préfet, le maire et puis une autre personne qui conduisait la calèche se sont rendus sur place et la discussion a eu lieu au presbytère. Là, c'était tout simple. Le général prussien a dit « je vous donne 2 heures. Si dans 2 heures vous n'avez pas reculé, il ne demandait pas d'ailleurs de se rendre. » C'est assez particulier, puisque toutes les forces françaises ont évacué Chartres devant les Prussiens et sont parties vers le nord. Donc il a dit dans 2 heures, si dans 2 heures Chartres n'est pas libre, eh bien on commencera le bombardement. Alors le souvenir était très chaud, puisque 2 jours avant, c'était le bombardement de Châteaudun et ensuite l'incendie de la ville et la conquête de la ville par les troupes à pied. Ce à quoi cet ultimatum, le préfet et le maire sont revenus dans Chartres pour discuter avec le colonel de la place. Il n'y avait pas une bonne entente entre le personnel politique et puis le colonel. Et finalement, le bon sens a prévalu, puisque Chartres, même avec ses 10 à 12 000 hommes de troupes qui stationnaient dans Chartres, n'avait aucune possibilité de se défendre. Il n'y a pas de... Le relief n'est pas propice à organiser des défenses. Et puis la deuxième chose qu'avaient fait remarquer les élus, c'est que la ville était donc construite avec des constructions en bois en majorité, et quelques bombes incendiaires auraient mis le feu dans la ville. Donc à 14 heures, tout le monde est revenu, et à 16 heures, toutes les forces de françaises étaient parties de la ville.
Alors voilà. C'est passionnant ce que vous racontez, parce que on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui s'est passé en 1940 lorsque Jean Moulin était préfet de Eure-et-Loir.
Oui.
L'histoire a des singuliers balbutiements parfois. Alors, par contre, une chose que je voudrais préciser et que je rappellerai à l'occasion. C'est que ce livre a été édité par les éditions du Colombier.
Oui.
Les éditions du Colombier ont leur siège à Champfolles.
Champfolles.
C'est quand même intéressant à savoir. Alors, autre chose que je précise quand même, pour ceux que ça intéresse, le livre abondamment illustré, souvent par des reproductions de photos, mais aussi par des cartes...
Il n'y a pas de cartes dedans.
Oui, enfin simplement... Il y en a une. Le livre est vendu au prix de 20 euros. Peut-être que pour ce prix-là, on ne peut pas s'en passer.
Il ne faut surtout pas s'en passer, puisque le souvenir de ce conflit disparaît au fil des ans, effacé d'abord par la Première Guerre mondiale. En 1919, on ne parlait plus de 1870, puis le second conflit, et puis le manque, je veux dire, d'entretien de tous les vestiges qui pouvaient exister et qui peuvent encore exister. Et il y a aujourd'hui une impérieuse nécessité d'un mouvement mémoriel pour qu'on se souvienne encore de ce conflit qui, comme vous le disiez tout à l'heure, a quand même bouleversé le paysage politique en France, et nouveau paysage d'ailleurs qui s'est maintenu pendant très longtemps. Donc il devrait y avoir pour cette année organisé au niveau national une vaste commémoration de l'événement de 1870, mais ça se télescope encore avec d'autres événements historiques. C'est le 75e anniversaire de la fin de la guerre 39-45, par exemple.
Oui.
Et la guerre 1870 a forcément bien beaucoup touché l'est de la France et notre région, puisque l'Eure-et-Loir a été l'un des 3 départements le plus fortement touché à l'ouest de Paris. Sorti de là, qui se soucie de la bataille, des batailles de 1870 dans le Finistère, en Gascogne ou dans les Bouches-du-Rhône, même si des gens de ces régions sont venus combattre chez nous.
Merci. Alors, merci Alain Loison. Nous allons prendre une pause musicale, si vous le voulez bien.
Thank you.
Alors, je vous rappelle que je suis en compagnie d'Alain Loison pour parler de son dernier ouvrage, L'invasion prussienne de 1870 en Eure-et-Loire, fait d'armes et témoignages. Alors, vous avez bien précisé dans le sous-titre, fait d'armes et témoignages, que vous avez récolté.
Alors,
Des témoignages. Alors, ces témoignages, parce que 150 ans, ce n'est pas des témoins directs.
C'était des témoins directs, mais ce sont des gens qui ont laissé des récits écrits tout de suite après les fêtes, 1872. Ce sont ces ouvrages que je suis allé rechercher. Mmh. Et ma démarche, elle était comme pour les photos. À partir du moment où j'ai pu savoir où s'étaient passés les faits d'armes, ça c'était assez facile, d'ayant connaissance à peu près des régiments qui se sont battus à ces endroits, je suis allé à la recherche des témoignages écrits par des combattants, des unités. Parce qu'il a été de coutume à la fin du 19e siècle.
Excusez-moi, mais ces témoignages, vous les avez trouvés en bibliothèque, je suppose.
Même pas. Je suis un rat de bibliothèque à partir de mon bureau. Mmh. Et tout se trouve sur Internet, encore une fois.
D'accord. Excusez-moi, allez-y.
Donc, ayant le nom des officiers supérieurs, mais officiers supérieurs, peu, les généraux ont peu écrit. C'est surtout des officiers intermédiaires, des officiers supérieurs, mais intermédiaires, du niveau de commandant, lieutenant-colonel, colonel, qui ont écrit des souvenirs, leurs souvenirs. Et sur Internet, Charles de Montis, de Montil, dont on parlait, il suffit de taper son nom, et puis on voit tout de suite ce qu'il a écrit. Alors, les ouvrages se trouvent à la Bibliothèque nationale. Heureusement, aujourd'hui, la Bibliothèque nationale a un site qui s'appelle Gallica. Et en cherchant, parce que c'est pas toujours évident, il faut avoir le titre quand même exact, on trouve effectivement ces témoignages. Et puis quand je les ai pas, quand je les avais pas, j'ai une autre piste aux États-Unis, où tous les ouvrages qui figurent dans les bibliothèques des universités américaines ont été numérisés et figurent sur un seul site. Alors c'est absolument formidable. Car ils ont absolument tout numérisé. Et la BNF ne numérise que les principaux ouvrages ou les ouvrages qui sont demandés. Il m'est arrivé, pour un précédent livre, de payer la numérisation d'un document qui maintenant est en ligne. Mais ce document était dans les archives et il n'était pas à disposition des internautes. Donc, ce qui est à la BNF non numérisé, on peut le trouver aux États-Unis. Encore tout à l'heure, je faisais une recherche, j'ai trouvé ce que je voulais aux États-Unis.
Alors, des témoignages écrits à peu de temps après les événements, donc qui étaient encore frais dans les mémoires, dont on peut supposer qu'ils n'avaient pas été plus ou moins déformés par le temps qui passe. On a toujours tendance à déformer les événements. Et il y a aussi une chose qui m'a beaucoup touché quand j'ai lu votre livre, c'est le nombre de tombes isolées, parfois de soldats inconnus, parfois de quelqu'un de connu, qu'on trouve hors des cimetières, à l'endroit même
où les gens sont tombés.
Où ils sont tombés.
Oui. Alors, il y a eu effectivement, tout de suite après le conflit, on a inhumé les morts. Sauf à Loigny, où on a commencé déjà à les rassembler. Enfin, quand Loigny, c'est tout autour de Loigny. De Loigny, la bataille. Ailleurs, les gens, les cadavres étaient inhumés sur place. Et dans les années qui ont suivi, il y a eu des accords entre les autorités françaises et les autorités allemandes, puisque l'État allemand a été créé donc à Versailles au mois de janvier 1871. Il y a eu un accord pour qu'il y ait un respect des descendants de tous les soldats tués. Et l'État français a vendu des toutes petites parcelles de terrain à l'Allemagne pour inhumer ses soldats.
Alors, il y a un cas, justement, qui m'a personnellement beaucoup touché, c'est la tombe d'un soldat allemand et qui a été inhumé sur place et laissé sur place à la demande de sa mère.
Oui.
C'est-à-dire
oui.
Sa mère a tenu à ce qu'il repose définitivement à l'endroit même où il était décédé.
Oui. Alors, il y a quelques cas, il reste quelques cas, parce que au fur et à mesure du temps, ces restes étaient relevés. Mmh. Et lorsqu'on a constitué l'ossuaire de Loigny-la-Bataille, ou l'ossuaire qui a été bâti à Lumeau, à Lumeau, il y a un ossuaire en pleine Beauce, dans lequel il y a plus de cadavres, de restes humains qu'il n'y en a à Loigny.
Oui, d'accord.
Et les soldats morts ont été rassemblés dans les cimetières. Donc on a des carrés allemands dans les cimetières. Il y a à peu près 135 cimetières en Eure-et-Loire qui ont un carré militaire allemand.
De 1870. Oui, parce que...
Et à ma connaissance, alors il y a ceux qu'on n'a pas retrouvés, bien entendu. Mais à ma connaissance, il y a très peu... De restes, d'ossements, qui n'ont pas été relevés. Alors, comme vous le disiez, ce sont les familles qui ont souhaité que leur aïeul reste à l'endroit où ils sont tombés. Alors, ça donne des situations tout à fait particulières. Il y a ce jeune soldat de 18 ans, un von Bülow, d'une famille très connu en Allemagne. Le père était écrivain, le frère a été compositeur de musique et chef d'orchestre. Sa belle-sœur n'était autre que Cosima Liszt, qui est devenue Cosima von Bülow, puis Cosima Wagner. Il y a cette tombe dans le milieu de nulle part, à Torçay.
Dans un champ, quoi.
Non, c'est dans une lande.
Dans une lande.
Au fond d'un vallon. Et on peut lire le poème de Rimbaud, qu'on lit devant les restes du soldat français. Eh bien, ça correspond tout à fait à ce qui existe à Torçay.
Le dormeur du Val.
Le dormeur du Val. Le dormeur du Val. Alors, cette tombe-là est à peu près en bon état, mais il en existe une autre, malheureusement. Je suis intervenu auprès de certaines autorités pour qu'il y ait quelque chose de fait. C'est un comte, donc un aristocrate, qui est venu mourir dans une cour de ferme, qui avait été blessé à Bazoches-les-Hautes, et qui est venu mourir dans une ferme, dans la cour d'une ferme, à Lumeau. Et la tombe existe toujours, ses pauvres restes sont toujours là, et la tombe est au milieu du matériel agricole, au milieu des matériaux, au milieu des taillis. C'est déplorable de ne pas avoir un geste d'humanité envers un homme qui s'est battu comme tous nos soldats se sont battus. Et on est plusieurs à intervenir pour que on fasse appel à nouveau à la famille. Est-ce que la famille se souvient encore? Bon, ce sont des aristocrates, j'ai été chercher, la famille existe toujours, mais qui se souvient dans cette famille qu'il y a un aïeul qui se trouve là dans des conditions déplorables? La photo est dans le livre, mais volontairement, je l'ai très, très resserrée pour qu'on ne voit pas ce qu'il y a autour.
D'accord. Alors, je rappelle quand même le titre de votre ouvrage... L'invasion prussienne de 1870 en Eure-et-Loire, fait d'armes et témoignages, aux éditions du Colombier, en vente pour le prix de 20 euros, n'est-ce pas? C'est bien. Alors, il y a une chose, c'est vous qui me l'avez fait remarquer, parce que vous le citez dans votre livre, en page de garde pratiquement, à Chartres, il y a un monument qui commémore la guerre de 1870. Ce monument se trouve place du Châtelet, en haut de la butte des Charbonniers. Et l'inscription, et si vous ne l'ayez pas, si j'avais pas regardé dans votre livre, j'aurais sûrement pas fait attention. L'inscription, c'est aux enfants d'Eure-et-Loire morts pour la patrie. Ce monument a été érigé en 1901, c'est-à-dire 30 ans après les événements. Mais aux enfants d'Eure-et-Loire morts pour la patrie, on ne parle pas de combattants, on ne parle pas de soldats, on ne parle pas de guerre, alors qu'un peu plus bas, vous avez l'immense monument aux morts de la guerre de 14-18, on a rajouté après 40-45, etc. Là, ce monument qui est en soi architecturalement impressionnant ne fait pas allusion au combat.
Non.
Pourquoi
non.
À votre avis?
Alors, il a été érigé à l'initiative d'un ancien chef de bataillon des mobiles d'Eure-et-Loire, dont le nom figure d'ailleurs sur le bâtiment. Et bien entendu, l'idée a été immédiatement reprise pour arriver à cette construction, qui est en fait une reconnaissance pour tous les Euréliens qui, malheureusement, sont morts pour la patrie.
C'est-à-dire qu'on ne parle pas uniquement des combattants, mais aussi des civils.
Mais aussi des civils. Alors, c'est particulièrement des combattants. Il y a eu des civils, qui sont tombés en 1870, parce que l'avancée prussienne s'est faite dans le sang, il faut le dire, avec des méthodes d'un autre âge, il faut le dire aussi, et qui n'a pas épargné, loin s'en faut, les civils. On a encore assisté en 1870, mais en 1914 aussi, à des exécutions sommaires de pauvres civils qui se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. D'autres, bien entendu, qui avaient des soupçons de poudre sur les mains, n'ont pas échappé à une exécution immédiate.
Alors, Alain Ponson, le temps tourne. Je suis désolé de vous interrompre, parce qu'on pourrait vous écouter encore pendant un bon moment. Je rappelle quand même que vous êtes l'auteur d'un ouvrage de témoignages. Enfin, vous êtes le transcripteur.
Voilà, exactement.
De témoignages. Votre livre aux éditions du Colombier. Merci Alain Loison d'être venu nous parler de cet ouvrage. Et merci à vous de nous avoir écoutés.
Au revoir. Merci.